9h47, j'ai trouvé le papier de l'Agence France-Presse fort intéressant. On s'est rendu compte qu'il y avait des publications scientifiques qui ne s'enfargent pas dans les fleurs du tapis de la rectitude, entre autres, en présentant des études scientifiques complètement bidons et que l'on présentait comme du cash carrément. Et ça amène, parce qu'il y a un consortium maintenant qui a été formé par différents médias pour tenter de débusquer ces fausses études scientifiques auxquelles on fait prétendre toutes sortes de bienfaits ou toutes sortes de choses qui sont absolument fausses. Ève Beaudin, journaliste scientifique affectée au poste de détecteur de rumeurs à l'agence Science Presse. Bonjour.
Bonjour, M. Beaumont.
On parle beaucoup des fake news, de la fausse information en général. Il y a des choses qui semblent très, très, très évidentes. Par contre, lorsqu'on parle de d'informations scientifiques, comme la majorité d'entre nous ne sommes pas scientifiques, ça devient plus difficile de démêler le bon gré de l'ivraie, admettons.
L'article auquel vous faisiez référence il y a quelques secondes, c'est un article qui a été publié donc dans Le Monde notamment aussi.
Oui.
C'est des journalistes allemands qui ont réussi à faire publier une fausse étude scientifique dans ce qu'on appelle une revue prédatrice, donc une fausse revue scientifique. C'est un phénomène qui est pas tout à fait nouveau, mais qui est en émergence, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont mal intentionnés, en fait, qui mettent sur pied des fausses revues scientifiques et qui acceptent de publier un peu tout, très rapidement, moyennement des frais. Donc, c'est-à-dire qu'ils font pas de contrôle sur les études qui sont soumises, ils font pas de révision par les pairs, donc révision par d'autres scientifiques dans le même domaine, et évidemment, ils ne vérifient pas non plus les sources de financement, les conflits d'intérêts, etc. Donc, on sait depuis un certain temps qu'il existe ce type de revues-là, qu'on pourrait appeler des revues prédatrices ou des fausses revues scientifiques qui publient de la science contrefaite. Ça existe. Selon l'article de du Monde, ça serait à peu près 2 à 3% de tout l'index des grandes banques scientifiques là, qui serait de la fausse science. Donc, je ne sais pas vraiment comment Le Monde a pu vérifier que 2 ou 3% de tout le corpus là, était de la fausse publication. Mais on pense qu'il y a quand même quelques centaines de publications scientifiques là, qui seraient des fausses publications scientifiques. Mais il faut savoir qu'il y a 30 000 publications scientifiques là, savantes, ouais, sérieuses à travers le monde. Donc, il faut quand même vraiment mettre ce phénomène-là en perspective, savoir que c'est quand même très, très, très marginal et surtout savoir que les vraies revues scientifiques, elles, travaillent de façon extrêmement sérieuse. Donc, il y a un contrôle, on vérifie les sources de financement, il y a une révision par les pairs, donc on demande à des scientifiques de réviser la méthodologie, de bien s'assurer que ces chercheurs-là existent, de vérifier leurs sources de financement, etc. Donc, quand vous lisez un article dans The Lancet, dans Science, dans Nature, c'est ce que font ces vraies publications-là scientifiques. Il faut quand même savoir que du solide, ça existe encore, là.
Mais il y a des scientifiques qui se plaignaient, et pas nécessairement de dire que là, ce qu'on présentait était faux, mais qu'on tournait les coins ronds, exemple, sur les conclusions des études qu'ils présentaient. Puis, je pense que l'exemple qui est le plus frappant, c'est de dire le chocolat est meilleur que je sais pas moi, tel produit à la santé, oui, ou consommer, oui, tant de tasses de café fait tel. Là, alors que lorsqu'on lit l'étude au complet, de un, la conclusion, c'est pas totalement ce qu'on nous présente. Et deuxième chose également, c'est que certains même scientifiques se disent, faut trouver quelque chose d'accrocheur, sinon on sera pas paru. Il y aura, oui, pas de parution.
Ben, vous avez raison que très souvent, on va remarquer un phénomène, c'est-à-dire l'exemple du chocolat que vous donniez, bon, c'est bon pour la santé, boire du vin, c'est du champagne tous les jours, ça serait vraiment bon pour plein de choses,
oui,
aussi. Donc, effectivement, dans la façon dont c'est rapporté parfois dans les médias ou aussi dans les médias sociaux, c'est sûr que des fois, on grossit beaucoup, beaucoup les résultats d'une étude. Puis quand on prend la peine d'aller lire l'article scientifique, les conclusions, etc., on se rend compte que très souvent, manger du chocolat, on va dire plutôt que ça serait intéressant pour certains composés, mais on va pas nécessairement recommander d'en manger tous les jours. Donc, il y a un certain spin-off. Souvent, ça prend beaucoup, beaucoup d'ampleur quand ça se rend dans les médias ou encore une fois dans les médias sociaux. Donc, c'est sûr que moi, par exemple, comme journaliste scientifique, mon travail, c'est d'aller vérifier, d'aller lire justement l'article scientifique en question et de lire les conclusions, de lire la méthodologie et de mettre les choses en perspective. Parce qu'il faut savoir que la science, ça repose sur une accumulation puis une compilation d'études. Donc, une seule étude, là, entre vous et moi, c'est pas suffisant.
Avec un groupe restreint d'utilisateurs, par exemple, ou de témoins là, dans le groupe.
Mais exactement, parce que c'est pas suffisant une seule étude pour révolutionner les choses. Il faut que ce soit basé sur une accumulation, une compilation d'études. C'est comme ça que devrait être faite la science et que c'est comme ça qu'elle est faite, la science. Ceci étant dit, les gens qui rapportent la science prennent pas toujours la peine d'aller vérifier est-ce que cette étude-là a été bien faite, est-ce qu'il y a d'autres études qui confirment ou infirment cette chose-là, est-ce que c'est une étude qui a été faite sur des modèles animaux ou sur des humains, parce qu'on sait que très souvent, la très grande majorité des études qui sont faites sur des animaux ou en laboratoire, mais une fois qu'on fait des tests sur des humains, ça s'avère pas aussi positif. Il faut recouper les faits, donc il faut interroger des experts. Moi, si je critique ou je parle d'une étude qui a été faite, je vais appeler des experts qui n'ont pas travaillé sur l'étude qui a été publiée pour leur demander leur avis. Et c'est pour ça aussi qu'on dit souvent qu'il manque de journalistes scientifiques dans les médias, parce que finalement, ça prend beaucoup de temps.
Et Mme Baudin, en terminant justement, aime pourtant citer un paquet de ces études-là un peu de travers, puis malheureusement, ça donne ça, puis ça prend un peu de rigueur quand même, et ça demande du temps. Ève Baudin, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est gentil.
Ça fait plaisir.
Elle est journaliste scientifique affectée au poste de détecteur de rumeurs à l'agence Science Presse.